pensée critique.
Une plongée dans les rouages du cerveau pour affûter son esprit critique.
Un podcast à seconde vue.
Bonjour Pierre, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on poursuit notre exploration des processus de compréhension et de raisonnement.
Bonjour Fanny, je te propose de commencer par une question simple. Selon toi, qu'est-ce qu'une tomate ?
C'est un aliment, évidemment. On l'utilise surtout dans des plats salés, même si on la trouve aussi dans des jus de fruits. C'est un peu à la frontière, un légume du point de vue culinaire, mais un fruit du point de vue botanique.
Voilà, et c'est justement ça qui est intéressant. Quand on pense à la tomate, notre cerveau va la classer dans une grande catégorie, celle des aliments. Ensuite, selon le contexte, elle va être associée à la sous-catégorie légumes ou fruits. C'est ce qu'on appelle la catégorisation mentale. Notre mémoire associe et classe les informations. C'est un processus fondamental pour percevoir et comprendre les concepts.
Donc pour la majorité d'entre nous, la tomate est un légume parce qu'on la cuisine comme telle, tandis qu'un botaniste, lui, va l'associer à la catégorie fruits, puisque c'est sa réalité professionnelle.
Et ce n'est pas contradictoire du tout. La plupart des choses dans le monde appartiennent à plusieurs catégories en même temps. On les classe selon le contexte et nos besoins du moment.
Et c'est vrai pour tout, j'imagine. Par exemple, les oiseaux, on les regroupe ensemble parce qu'ils ont des caractéristiques communes, des plumes, des ailes, un bec.
Eh oui, mais tous les oiseaux ne sont pas perçus de la même façon. Une autruche, par exemple, c'est un oiseau, mais moins typique qu'un moineau ou un aigle. Il y a une hiérarchie implicite dans les catégories et des exemples plus représentatifs que d'autres. Pour chaque catégorie, on a une sorte de prototype, un portrait robot.
Alors, pour les oiseaux, ça serait un animal qui vole, qui a des plumes, un bec, deux pattes, qui pond des œufs et qui chante dans la nature.
Effectivement, ce serait sans doute quelque chose comme ça, même si le prototype peut varier d'une personne à une autre.
Du coup, si on voit un truc qui vole au loin, on pense tout de suite à un oiseau. Sauf qu'on pourrait s'être trompé et ne pas avoir identifié un cerf-volant ou une chauve-souris.
Très juste. La catégorisation est bien pratique, elle nous aide à raisonner rapidement, mais avec des imperfections. On peut aussi passer d'une catégorie à une autre selon le contexte. Regarde les verres à table. Pendant le repas, on distingue bien le verre à vin du verre à eau. Mais une fois la vaisselle faite, tout finit dans la même catégorie, la vaisselle.
Et c'est pareil quand on planifie des vacances. On se dit, on veut du soleil, pas trop de pluie, donc on pense direct au sud de la France. C'est rapide, ça nous aide à choisir. Mais attention, le sud c'est vaste. L'Aveyron, par exemple, c'est bien dans le sud, mais ce n'est ni la mer ni la plaine.
Autre exemple, on entre dans un restaurant. Tout de suite, on active notre catégorie restaurant, avec ses attentes. Être placé, commander un apéro, lire le menu.
Mais si c'est une cafétéria ou un buffet, là, il faut changer nos habitudes. Et si on voyage à l'étranger, comme aux États-Unis ou au Japon, les règles changent encore. Pourboire obligatoire, plat à partager, chaussures à enlever.
En effet, la catégorisation est à la fois multiple et variable. Il faut à tout moment adapter son interprétation.
Cette catégorisation est donc un des grands processus du fonctionnement cognitif.
Absolument. La catégorisation s'applique à tout ce que nous manipulons mentalement. Des objets, des situations, des concepts abstraits, mais aussi des individus.
On catégorise les gens ? C'est pas forcément une bonne chose, non ?
Oui. On regroupe les individus selon des règles personnelles. Sa famille, son quartier, son groupe d'amis, ses collègues de travail, etc. Mais attention, car la catégorisation peut reposer sur des règles subjectives, arbitraires, peu fondées ou floues, et donc qui peuvent poser problème pour des individus. Ça peut être le cas notamment lorsqu'on déduit une causalité d'une simple corrélation et que l'on regroupe ainsi dans une même catégorie des individus parce qu'ils semblent présenter une même caractéristique.
Par exemple ?
Quand on habite en Haute-Savoie, on est proche des sommets alpins, mais les habitants de Haute-Savoie ne sont pas nécessairement tous de bons skieurs.
Ces raccourcis, ça produit donc des stéréotypes ?
En effet, ce sont des règles peu fiables ou naïves qui créent des stéréotypes relatifs à des groupes d'individus. Ce sont des prototypes qui émergent naturellement de la catégorisation. On a donc tous des stéréotypes, car c'est un effet secondaire inévitable de la catégorisation.
Ah bon ?
Et malheureusement, oui. La catégorisation repose sur le regroupement. Elle permet de donner du sens au monde qui nous entoure. Sans ce mécanisme, nous ferions face uniquement à des singularités à propos desquelles nous ne pourrions rien conclure. Mais le revers de la médaille, ce sont les approximations et les stéréotypes qui peuvent mener au racisme et aux discriminations.
Donc le défi, c'est d'être conscient du côté exagéré ou caricatural d'un prototype ou d'un stéréotype ? Et donc, plus on connaît le monde en détail, plus on a conscience de la complexité des choses et moins on tombe dans les stéréotypes.
Exactement. Je te propose maintenant de parler du cadrage. Pour illustrer ce concept, j'ai une petite expérience à te proposer. Et à vous aussi, chers auditeurs et auditrices. Prêt ?
Toujours.
Alors écoute ces extraits de texte. De nombreux individus traversent la mer Méditerranée ou l'Asie centrale. Si certains préfèrent migrer en groupe, d'autres préfèrent voyager seuls, mais toutes suivent des routes migratoires spécifiques. Certaines routes suivent des couloirs appelés routes migratoires. Cette migration est motivée par la recherche de conditions plus favorables. Tu penses à quoi ?
Je dirais à la migration des populations.
C'est ce que la plupart des gens pensent, mais voici la suite. Le changement climatique a un impact sur les migrations. Les conditions météorologiques imprévisibles, les modifications des habitats et les perturbations des écosystèmes peuvent perturber ces trajectoires. Protéger ces routes migratoires et les zones de repos est crucial pour assurer la pérennité de ces espèces.
Ah, il s'agissait des oiseaux migrateurs. Joli, j'ai bien été piégée. Tout ça parce que ce dont on parlait juste avant m'a orienté vers une interprétation.
Exactement. Notre conversation précédente a mis en place un cadre à ton interprétation du texte. C'est ce qu'on appelle le biais de cadrage. Notre cerveau construit rapidement une représentation mentale avec les informations disponibles. Mais si ces informations sont partielles ou orientées, notre compréhension peut être biaisée. Tu vois d'ailleurs que c'est en lien avec la catégorisation.
Effectivement, j'ai changé de catégorie entre le début du texte et la fin.
Un autre exemple, si je dis « Paul était stressé par le cours de maths », tu penses à quoi ?
Un élève qui angoisse avant un contrôle ?
Et si j'ajoute, il avait peur de ne pas pouvoir maîtriser la classe.
Ah, c'est un prof. Et là aussi, je change de catégorie.
Voilà. Même information de départ, mais interprétation différente selon la suite.
Et parfois, ce cadrage peut avoir des conséquences bien plus graves, j'imagine.
En effet, je pense à un fait divers qui date d'il y a quelques années. Une histoire de bagarre dans le métro. Un jeune homme était mort en défendant une femme contre une agression. Tu te souviens ?
Ah oui. Les médias avaient d'abord présenté le jeune homme comme un héros du quotidien. Mais quelques jours plus tard, l'enquête révélait qu'il avait en réalité provoqué l'altercation ayant mené à sa mort. Le cadrage initial, incomplet, avait faussé notre jugement, celui des médias et des politiques.
On retrouve aussi ce phénomène de cadrage dans la vie quotidienne. Genre, tu rentres chez toi, ton partenaire te voit affalé dans le canapé alors que tu devais faire les courses. Et là, tension.
Alors qu'en fait, par exemple, tu as eu une grosse journée, des bouchons, le magasin était fermé. Mais lui ou elle n'en a vu qu'un détail cadré sur le moment présent.
C'est pareil avec nos photos de vacances. On choisit le bon angle, le bon moment, et on donne une image idéale. C'est un cadrage subjectif. Nos récits personnels sont ainsi souvent cadrés. On ne peut pas tout dire, donc on sélectionne certaines informations. Ce qu'on dit influence la compréhension de celui qui nous écoute. Un autre cadre limitant notre vision du monde est celui centré sur notre propre personne. C'est un biais de cadrage qu'on pourrait appeler le biais d'autocentrage.
Tu as un exemple ?
Eh bien, on apprend à l'école que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Ce n'est évidemment pas faux, mais en hiver, dans l'hémisphère nord, il se lève au sud-est et se couche au sud-ouest. Dans les pays nordiques comme la Norvège ou l'Islande, il se lève même bien plus au sud. Et encore plus près du pôle nord, le soleil ne se lève même pas pendant plusieurs semaines. Tout dépend du cadre de référence dans lequel on se place.
On interprète donc le monde à partir de notre propre point de vue, sans forcément considérer les autres.
Absolument. Notre compréhension du monde ou d'événements se construit souvent avec une vision autocentrée, sans forcément prendre en compte des points de vue extérieurs, que ce soit pour la géopolitique, l'histoire du monde ou le mouvement du soleil, mais aussi pour des situations de notre quotidien, lorsqu'avoir le point de vue d'une autre personne pourrait nous amener à revoir notre jugement initial.
Alors, pour résumer, catégorisation et cadrage sont deux mécanismes clés de la compréhension. Ils nous aident à donner du sens rapidement, mais ils peuvent aussi induire des erreurs de jugement.
Le tout, c'est d'en avoir conscience et de rester curieux, pour limiter les stéréotypes, les malentendus et mieux comprendre le monde.
Retrouvez en description les sources utilisées pour cet épisode. Pensée critique est un podcast de l'association de médiation scientifique À Seconde Vue.